le récit de la crucifixion. Donc c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 19, les versets 16 à 30. Et ça se trouve page 704, dans les Bibles blanches. Je lis donc à partir du verset 16. Alors, il le leur livra pour qu'ils soient crucifiés. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Jésus, portant sa croix, sortit de la ville pour aller vers l'endroit appelé le crâne, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent et avec lui deux autres, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate rédigea aussi un écriteau qu'il plaça sur la croix. Il y était écrit « Jésus de Nazareth, le roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que l'endroit où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était écrite en hébreu, en grec et en latin. Les chefs des prêtres, des Juifs, dirent à Pilate « N'écris pas le roi des Juifs, mais plutôt cet homme a dit « Je suis le roi des Juifs ». Pilate répondit « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit ». Après avoir crucifié Jésus, les soldats prirent ses vêtements et en firent quatre parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'une seule pièce, depuis le haut jusqu'en bas. Ils se dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, mais tirons au sort pour savoir à qui elle sera. » C'est ainsi que s'accomplit cette parole de l'Écriture. « Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort mon habit. » Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, la femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus vit sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait. Il dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Dès ce moment-là, le disciple la prit chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà accompli, dit, afin que l'Écriture se réalise pleinement, « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge, ils fixèrent une branche d'hysope et l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli. » Puis, il baissa la tête et rendit l'esprit. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Et je vais prier. Père, nous te remercions pour ta parole et nous te prions que ce matin, elle puisse nous atteindre au plus profond du cœur. Nous prions que ta parole nous illumine par l'action de ton Saint-Esprit et qu'on puisse la comprendre et que nos cœurs puissent changer, Seigneur. Amen. Alors aujourd'hui, nous sommes devant le récit de la crucifixion de Jésus, tel que le décrit l'évangéliste Jean. Et la croix, il n'y a rien de plus méprisable dans l'Empire romain. Et vendredi soir, il y avait une conférence dans l'église sur l'histoire de la représentation de la crucifixion dans l'art. Et Julie Delacôte nous a expliqué que dans les premiers siècles, les chrétiens ne représentaient pas Jésus sur la croix. Ils représentaient uniquement une croix vide. Alors, il y a certainement plusieurs raisons à cela. Il peut y avoir des raisons théologiques. Mais aussi certainement que la croix était trop honteuse dans leur culture. Ça peut être un peu comme si on avait comme représentation la guillotine à l'époque de la Révolution française, ou aujourd'hui le couteau de Daesh, ce serait quelque chose d'horrible et de honteux. Et il a fallu un millénaire pour commencer à voir des représentations de Jésus mort sur la croix. Des représentations de Jésus mort sur la croix, il y en a eu plus tôt, mais c'était pour se moquer. Et Trevor, il y a quelques semaines, nous a montré un graffiti qui a été retrouvé à Rome, Et sur ce graffiti, on voit une forme, une figure humaine, une forme humaine qui est crucifiée avec une tête d'âne et à côté un personnage qui semble l'adorer avec ce commentaire « Alexamenos adore son Dieu ». Moquerie, donc, face à ce que représente la croix. Mourir crucifié est jugé comme méprisable dans tout l'Empire, à tel point que les citoyens romains eux-mêmes ne sont pas crucifiés, et ceci, quelle que soit leur faute, sauf avis express de l'empereur et décision express de l'empereur même, ce supplice était réservé à ceux qui n'étaient pas citoyens romains. Alors qu'est-ce que la crucifixion a de si particulier ? Eh bien, tout est fait dans ce supplice pour faire perdre la dignité aux condamnés, pour faire perdre toute dignité aux condamnés. Il doit subir une longue agonie bien en vue aux yeux de tous. Ce condamné n'est plus qu'un pantin, sans libre arbitre, à la merci des tourments que lui infligent ses bourreaux. D'abord, le condamné est déshabillé pour être fouetté. Et cette séance est surnommée la mort de mi-parcours. Dans les filets du fouet sont attachés des morceaux de métal, d'os, qui ont pour fonction d'arracher la chair. Les textes de l'époque disent que le soldat chargé de fouetter lors de ces séances finit toujours la séance exténué, tellement il met du cœur à l'ouvrage. Le condamné doit ensuite porter lui-même la poutre en bois sur laquelle il va être attaché. Il doit la porter sur tout un parcours, alors qu'à ce stade, il est déjà très affaibli. Il doit la porter sur son dos, avec la chair à vif, se frottant au bois. Il doit porter son instrument de torture devant la foule qui l'insulte et le maltraite. À ce stade, on voit que dans les autres évangiles, qu'un homme, Simon de Cyrène, est réquisitionné pour porter cette barre à la place de Jésus, à la porte de Jérusalem, probablement parce que Jésus est trop affaibli pour porter à ce stade. Donc ensuite, arrivé sur le lieu final de la crucifixion, le condamné doit s'allonger sur le dos. Il est attaché à la barre horizontale, au niveau des poignets ou des mains, soit par des cordes ou des clous. Puis les soldats soulèvent cette barre avec le condamné sur elle et vont la fixer sur la barre verticale déjà en place. Ensuite, le condamné est laissé à l'agonie. Parfois, on ajoutait même une sorte de petit siège. Et ce n'était pas pour le confort, mais au contraire, pour que l'agonie puisse durer encore plus longtemps, pour soulager un peu le poids du corps, pour que l'agonie puisse durer encore plus longtemps, aux yeux de tous. Et donc celui qui était sur la croix devait constamment pousser sur ses pieds et tirer sur ses bras pour tenter de faire rentrer de l'air dans ses poumons. Et donc il y avait tout le temps ces mouvements-là pour tenter de faire rentrer de l'air dans ses poumons. Et au-delà de toutes ces souffrances terribles que devait souffrir la victime, il y a l'idée de lui retirer toute dignité. Il n'est plus là qu'un pantin face à ses tortionnaires. Il ne peut que se soumettre à leur volonté. Il doit agoniser aux yeux de tous. Et si je raconte tout cela, si je raconte les détails de la crucifixion, c'est pour mettre en valeur, c'est pour mettre en contraste la sobriété du récit qu'en fait l'évangéliste Jean. Et on peut se demander pourquoi Jean est si sobre dans son récit. Eh bien peut-être est-ce parce que les gens à l'époque savaient déjà ce que c'est la crucifixion et donc on n'a pas besoin de leur décrire. Mais on voit que Jean est même plus sobre que les autres évangiles qui sont déjà sobres, eux. Par exemple, il ne fait pas référence aux moqueries, que ce soit la moquerie de la foule ou des soldats. Il n'en fait pas référence. Alors, qu'est-ce qu'il veut nous montrer ici? Pourquoi est-il si sobre? Eh bien, il veut souligner une vérité. Une vérité qui est que, contre toute apparence, l'homme qui est crucifié ici n'est pas en train de perdre toute dignité, n'est pas un pantin misérable soumis à la volonté de ses tortionnaires, n'est pas un pauvre martyr, même s'il est innocent. L'homme qui est crucifié ici agit selon sa propre volonté. Il est au contrôle de la situation. L'homme qui est crucifié se soumet à la volonté de son Père. L'homme qui est crucifié est en train de mener sa mission à son terme. L'homme qui est crucifié est l'agneau de Dieu, venu pour ôter les péchés du monde. L'homme qui est crucifié est celui qui a dit, à propos de cette heure, « Père, l'heure est venue. Révèle la gloire de ton Fils, afin que ton Fils révèle ta gloire. Tu lui as donné pouvoir sur tout être humain, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » Donc, ici, malgré et contre toute apparence, Dieu accomplit son plan dans tous les détails de la crucifixion. Jésus est donc en train d'accomplir son œuvre. Jésus n'est pas un martyr, mais un sacrifice volontaire, obéissant à la volonté de son Père. Le plan du salut pour l'humanité arrive à son accomplissement. Le plan de Dieu se réalise sous nos yeux, et ceci pile à la Pâque juive. Et donc, ce récit de Jean, contre toutes les apparences, a un parfum de triomphe. Alors, comment le plan de Dieu s'accomplit ici, à travers ce récit? On peut voir plusieurs séquences bien distinctes s'enchaînent. On peut en voir quatre, même cinq, si on compte les deux premiers versets qu'on a lus, enfin les versets 17 et 18. On voit une séquence où Jésus est proclamé roi. On voit une séquence où on voit que l'écriture, que le texte biblique, au fur et à mesure des siècles et des siècles, eh bien, est en train de s'accomplir. Et on voit que Jésus est en train de mener sa mission à son terme, que sa mission est accomplie. Alors d'abord, il y a la séquence de l'écriteau, dans les versets 19 à 22. Il était de coutume que le condamné porte autour du cou le motif de sa condamnation. Lorsqu'il était amené à la croix, il avait autour du cou le motif de sa condamnation. Et puis après, cet écriteau, il était affiché au-dessus de la croix pour être bien en vue, au vu de tous. Et l'objectif, là, il était dissuasif. C'était pour montrer ce qui attend la foule, si jamais ils font le même crime que celui qui est crucifié. Ce panneau, il dit « Ne faites pas le même crime, ou alors voilà ce qui vous attend. » Et c'est pour ça qu'il était aussi en plusieurs langues, pour qu'un maximum puisse le lire et le comprendre. Pilate, lui, il n'a pas trouvé de motif à la condamnation de Jésus. Mais il a été conduit à le condamner par l'action des chefs religieux. En quelque sorte, il a été manipulé. Et c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Les chefs religieux, ils ont été même jusqu'à blasphémer, jusqu'à dire qu'il n'y avait pas d'autre roi pour eux que l'empereur, et bien pour obtenir la crucifixion de Jésus. Et indirectement, ils ont menacé Pilate d'aller voir ses supérieurs pour l'accuser de ne pas condamner un roi qui pourrait être un concurrent à César. Et donc Pilate risquait gros. Et la semaine dernière, Kif a souligné que Pilate n'a pas eu le courage de s'opposer au chef religieux. Mais maintenant, à cet instant, Pilate, il tient sa vengeance. Cet écriteau, c'est sa vengeance à Pilate. Il est décidé à humilier les prêtres qui l'ont humilié lui-même en le manipulant. Et sa manière donc de les humilier, c'est ce panneau. Pilate, à travers ce panneau, est en train de leur dire « Regardez, Rome vous domine. Il n'y aura plus jamais un autre roi des Juifs, à part celui-là. À part celui-là, là, cet homme misérable, agonisant sur cette croix maudite. Voilà votre roi. Regardez son état lamentable. » Et d'ailleurs, les chefs religieux ont très bien compris ce que cherche à faire Pilate, ici. C'est pour ça qu'il répond, n'écris pas le roi des Juifs, mais cet homme a dit, je suis le roi des Juifs. Mais Pilate, tiens bon, il veut bien montrer qui est le chef. C'est lui le représentant de Rome, c'est lui qui aura le dernier mot dans l'histoire. Et on voit ici toute l'ironie de l'auteur, on voit ici toute l'ironie de Jean. L'ironie de l'auteur, c'est de montrer que Pilate, vexé et pris dans son ego, eh bien, malgré lui, est en train de prononcer une vérité cosmique. Pilate est prophète de Dieu, malgré lui. Malgré lui, Pilate est en train de proclamer le roi de toutes les nations. Jésus est vraiment roi, et la croix est son trône de gloire. C'est là qu'il sauve l'humanité, c'est là qu'il règne. C'est là qu'il a la victoire sur la mort. Et le titre placardé au-dessus de Jésus le montre de manière universelle en trois langues. Et comme le dit le cantique de Ruben Saillance, à l'agneau sur son trône, apportons la couronne. Il a conquise sur la croix. Il est le roi des rois. Il eut la croix pour trône, l'épine pour couronne. Mais le Père a glorifié son Fils crucifié. Au prince de la vie, la mort est asservie. Nous voyons ensuite le plan de Dieu s'accomplir dans la séquence du partage des vêtements. Et c'était la coutume lors de la crucifixion que les soldats se partagent les vêtements du crucifié. En quelque sorte, c'est leur récompense, leur trophée qu'ils ont là. On lit à partir du verset 23. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent quatre parts. Une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Et alors là aussi, on voit que malgré eux, les soldats sont en train d'accomplir le plan de Dieu. Parce que on voit ensuite citer, mot pour mot, les paroles du psaume 22, où on lit « Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort mon habit. » Et dans la suite de ce même psaume de David, on voit que le psalmiste, après les tourments, s'en sort victorieux. Il est rétabli par Dieu et lui offre toute la louange. Le plan de Dieu, de toute éternité, est donc en train de s'accomplir devant nos yeux. Et Jean nous dit ces choses afin que nous croyions, nous aussi, que le plan de Dieu est en train de s'accomplir à la croix. Et il y a ensuite la séquence avec la mère de Jésus et le disciple bien-aimé. Et on peut se demander ce que vient faire cette séquence ici. Eh bien déjà, il y a la notion importante pour Jean de montrer qu'il était là, qu'il était présent, que ce qu'il est en train de raconter, eh bien, il peut le dire, il est légitime pour le dire, parce qu'il était là au plus près de la croix. Et ici, il se met en scène lui-même. C'est lui le disciple que Jésus aimait. C'est lui qui est auprès de Marie. Il est donc aux premières loges, vraiment tout prêt pour voir et pour pouvoir dire ce qui s'est passé. Et comme il le dit un peu plus tard, au verset 35, « Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai, afin que vous, vous croyez aussi. » Jésus veut donc montrer qu'il était présent, et que comme il était présent, eh bien, on peut le croire. On peut lui faire toute confiance dans ce qu'il dit. Et peut-être que Jean veut également montrer l'humanité de Jésus, parce qu'après on voit cette scène avec Marie, avec la mère de Jésus. Et on voit que même dans ce moment d'extrême souffrance, Jésus prend soin de sa mère. Même s'il est en train de réaliser le plan pour sauver l'humanité, eh bien, il n'oublie pas sa mère et prend soin d'elle. Des fois, on se moque, on dit un peu « Ah, voilà, le sauveur de l'humanité ». Il y a des gens comme ça qui peuvent se sentir investis de grandes missions, mais qui, du coup, sont déconnectés de ce qui se passe autour d'eux, sont déconnectés de leur environnement. Mais on voit que ce n'est pas le cas de Jésus, qui prend soin de sa mère, qui est là, à côté. On voit également à travers ça qu'il ne transgresse aucun commandement, et celui notamment d'honorer son père et sa mère. Parce que Marie est certainement veuve à ce moment-là. Elle va donc être perdue sans son fils, qui prenait soin d'elle. Et Jésus la confie donc au disciple Jean, qui a maintenant pour tâche de prendre soin d'elle. Et enfin, le plan de Dieu, nous voyons dans la dernière séquence. On lit « Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà accompli, dit, afin que l'Écriture s'y réalise pleinement, « J'ai soif. » Alors, dans cette séquence finale de la croix, nous voyons que Jésus maîtrise la situation. Il maîtrise même le moment de sa propre mort. Il boit le vinaigre pour mieux s'écrier, « Tout est accompli !» Puis rend son esprit, c'est-à-dire meurt. Et comme on l'a déjà dit, il est venu accomplir son œuvre. Il est venu la mener à son terme. Il s'agit du plan de Dieu pour sauver l'humanité qui est vouée à sa mort à cause de sa rébellion contre Dieu, à cause du fait qu'on a choisi d'être nos propres maîtres et qu'on a rejeté Dieu. Eh bien, Jésus vient sauver l'humanité et nous sauver de la mort en prenant sur lui la colère de Dieu, en prenant sur lui nos fautes. Voilà sa mission qu'on a déjà lue dans le prophète Ésaïe. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Et voyez bien dans ce texte de Jean qu'il n'y a pas de parfum d'horreur ou de désespoir, mais qu'il y a un parfum de victoire. Jésus mène sa mission à son terme. Il est lui-même l'agneau pascal, l'agneau de Dieu venu pour ôter les péchés du monde. Dans la mort de Jésus, nous avons la mort de la mort qui annonce déjà la victoire. Dans la mort de Jésus, nous avons l'agneau pascal, dont le sang nous protège de la condamnation, de la mort et de l'enfer. Tout est accompli. La mission arrive à son terme. Depuis le jardin d'Éden jusqu'à cette croix, il y avait cette tension. comment un Dieu juste peut-il exercer pleinement sa justice en punissant le mal tout en protégeant le coupable? Eh bien, la tension n'est plus en Christ. Justice est faite. Le juge lui-même est descendu dans la cour, s'est dévêtu, a subi lui-même la peine du condamné. Gloire soit rendue à Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer comme application de ce texte? Eh bien, dans les moments de la vie où nous avons l'impression que tout nous abandonne, que tous nous abandonnent, y compris que Dieu nous abandonne, cela peut être la persécution, la maladie, la famille qui nous rejette ou bien d'autres choses. Eh bien, dans ces moments-là, souvenons-nous de la croix. Souvenons-nous de ce moment où Dieu semblait impuissant, abandonné, comme un pantin soumis à ses tortionnaires. Quand il était soumis aux moqueries, insultes, battu, agonisant. Ce moment même, qui aux yeux de tous était le moment infâme, de honte suprême. Eh bien, ce moment-là, c'était le moment de sa gloire, où il manifestait son plan. C'est à ce moment-là qu'il a été victorieux. Et nous pouvons nous dire que si lui a subi cela, il peut lui-même nous donner la victoire. Et que dans nos situations tragiques, il aura le dernier mot. Et au moment de l'agonie finale, au moment de notre agonie finale, où la douleur et la mort semblera l'emporter, il sera avec nous et nous amènera avec lui pour l'éternité. Et nous pouvons dire avec l'apôtre Paul, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Prions. Père, nous te remercions pour ton Fils, pour l'œuvre de ton Fils qui mène à son terme, et ceci pour notre salut, ceci pour que nous puissions avoir la vie et la vie éternelle, que nous puissions te connaître pleinement. Et Père, aide-nous dans les moments où nous sentons que tout s'effondre autour de nous à regarder à toi et de voir à ton plan parfait, de voir à ce qui paraissait comme l'humiliation suprême, qui est en fait ta gloire suprême et le plan de ton salut. Merci pour ce plan extraordinaire et que nous puissions regarder à toi. Et nous prions pour ceux et celles ici qui n'ont pas encore mis leur confiance en toi, en Jésus. Et nous te prions vraiment que tu puisses les éclairer et qu'ils puissent voir en toi le Maître souverain, celui qui s'est sacrifié pour nos péchés, celui qui s'est donné pour nos fautes, et celui qui nous donne la vie éternelle en son nom. Amen. Amen.